France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Ne me parlez pas de Victor Hugo, de sa mort, de sa grandeur, mais de son enterrement, rappelle André Gillois, un peu sèchement, à l'un des témoins de l'émission. Les témoins, en 1955, le 1er décembre 1955, lorsque fut diffusée sur la chaîne parisienne cette émission, les témoins ne sont plus les jeunes gens qu'ils étaient en 1885, le 1er juin 1885, ou la veille, ou le lendemain des funérailles nationales. Ils se souviennent de tel ou tel détail, parfois un détail qui n'a pas grand-chose avec la cérémonie, mais qui fait le charme de ces remontées dans le temps. Et nombre de témoins ont surtout en mémoire le silence.
Soyez témoins, une émission d'André Gillois.
Je vais commencer par demander à Madame Simone, qui a été la première à évoquer ce grand événement, je vais la prier de nous rappeler ses souvenirs personnels sur l'enterrement de Victor Hugo.
J'ai très peur de vous dire des choses brèves d'abord et j'espère exactes, mais enfin il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là j'avais 5 ans, que tout de même mon imagination a un peu travaillé là-dessus, que je ne sais plus, enfin je vais vous dire exactement ce qui est dans ma mémoire. Je m'excuse si ça n'est pas exact. Mon père m'a dit un soir, je vais te conduire jusqu'à l'Arc de Triomphe, enfin on appelait ça l'Arc de Triomphe à ce moment-là, ou la barrière de l'étoile, pour que tu vois le catafalque de Victor Hugo. Il m'avait lu d'abord les vers du poète, je savais que c'était quelque chose de très important, de très beau, qui enrichissait le patrimoine français, tout ça m'avait été bien expliqué. Comme j'étais déjà très intéressée, étant donné combien mon père m'avait tôt mis en contact avec ce qui était là, avec la littérature, qu'il avait toujours souhaité que j'aie de bonnes lectures, même à cet âge, où il me lisait lui-même les choses, j'avais donc le sentiment de la gravité de l'événement. Nous habitions sans cesse avenue des Champs-Élysées, c'est-à-dire dans l'immeuble qui est maintenant contre la radio.
Oui.
Alors vous voyez le peu de trajet que nous avions à faire pour monter
aller
jusqu'à là. Nous sommes partis à la nuit tombante. Nous sommes remontés jusqu'à la barrière de l'étoile, jusqu'à l'arc. Il y avait énormément, je me rappelle que le sentiment de la foule, j'étais très petite, je le suis restée, mais j'étais minuscule alors, et j'avais le sentiment des êtres, des gens qui étaient autour de moi. J'ai gardé le souvenir de la presse, par conséquent, d'avoir été pressée. Et puis, nous sommes arrivés assez près de l'étoile, et j'ai vu sous l'arc une immense construction qui avait une forme qui était plus large dans le haut que dans le bas. C'est assez extraordinaire. Si j'avais à le dessiner, il me semble que je ferais un dessin qui est illogique, parce qu'il me semble maintenant que logiquement, ça aurait dû au contraire être construit plutôt en pyramide. Ça n'était pas construit en pyramide, dans mon souvenir. C'était construit au contraire avec une base plus étroite que le sommet.
Disons tout de suite, avant que les autres témoins ne témoignent, que cela correspond à la réalité.
Ah,
car
oui.
J'ai vu une photographie et il y avait, le corps de Victor Hugo était dans une espèce de sarcophage qui était en effet sur un pilier plus étroit que sarcophage.
Ah ben voilà. Alors voyez-vous, alors mes souvenirs sont exacts là. Et c'était recouvert, le tout était noir avec des étoiles d'argent. Il y avait des torchères qui brûlaient aux quatre coins et il me semble, j'ai le souvenir de quelques personnes qui étaient dans ce périmètre qui était délimité par la lumière. Je suis restée là, j'ai fait une prière, j'ai regardé ça longuement avec le sentiment qu'en effet j'étais devant quelque chose de considérable et nous sommes retournés au milieu de la même foule et rentrés à la maison. Le lendemain, comme nous avions une grande terrasse, à l'occasion naturellement du défilé, du cortège, il y avait des amis qui étaient invités. Et naturellement, au lieu de regarder très attentivement le cortège, je me suis beaucoup occupée de courir sur la terrasse, de profiter des gâteaux du buffet, de ce qu'il y avait à boire, de ce qu'il y avait à manger, et de faire des drôleries avec les enfants qui étaient là. Et ce que je garde, le souvenir que je garde du cortège, c'est le défilé des chars sur lesquels étaient les couronnes. Ça m'a paru interminable. Il m'a paru qu'il y avait nombre de voitures sur lesquelles étaient entassées des couronnes. Et puis alors, j'ai vu le char très modeste, car alors mon père m'avait expliqué que Victor Hugo avait demandé à être enterré dans le corbillard des pauvres.
Bien. Est-ce que je puis me permettre de vous poser une ou deux petites questions?
Ah oui, je vous en supplie.
Vous avez parlé des chars, vous ne vous rappelez pas le nombre qu'il y en avait?
Ah non, pas du tout.
Ni combien de chevaux il y avait
à chacun? Pas du tout. Je vous dis, j'étais très très occupée à jouer, à gambader sur la terrasse et à faire, soi-disant, la maîtresse de la maison pour les petits-enfants qui étaient de mon âge, qui étaient là.
Oui, la kermesse pour la foule n'a commencé que le soir, mais pour vous, c'était déjà pendant la cérémonie.
J'étais couchée, là, à ce moment-là, ce genre de kermesse-là m'a échappé.
Eh bien, je vous remercie, chère Simone. Je vais maintenant prendre les témoins un à un,
oui,
et vous demander de les écouter, et ensuite nous confronterons vos souvenirs et les leurs.
Très bien.
Faites entrer tout de suite le premier témoin. J'ai devant moi M. Toucheboeuf, qui a assisté aux obsèques de Victor Hugo. Alors, cher monsieur, voulez-vous me dire quels sont les souvenirs essentiels que vous avez de cette cérémonie?
Eh bien, le 22 mai 1800...
Non, pardon, vous interromps parce que je voudrais vous parler seulement du jour des obsèques. Me parlez pas de Victor Hugo, de sa mort, de sa grandeur,
non.
Où étiez-vous le jour des obsèques?
Ah bon, eh bien, le jour des obsèques, le 22 mai 1885, je me trouvais sous l'Arc de Triomphe et j'y étais en qualité de sous-officier des bataillons scolaires du 7e arrondissement, la compagnie 7e, et pour veiller autour du catafalque de Victor Hugo.
Vous aviez quel âge?
J'avais 13 ans.
13 ans. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ce catafalque?
Eh bien, d'abord, l'Arc de Triomphe était décoré d'une façon merveilleuse, par des fleurs en quantité, des tentures noires et également des tentures tricolores. Et en plus, naturellement, des bataillons qui ont passé une partie dans la journée et une partie de la veillée, remplacée par des troupes par la suite, nous avons eu alors dans la soirée les gardes municipaux à cheval ayant des torches en main. Maintenant, le lendemain, à l'enterrement, le président de la Chambre, M. Charles Floquet, a fait un discours magnifique.
Vous avez entendu le discours de Charles Floquet?
Oui.
Oui, et vous avez participé ensuite au défilé?
Non. Non, nous n'avons pas. Après ça, le corps est parti sur, comme il l'avait désiré, n'est-ce pas, sur une voiture, vous savez, il a demandé à avoir le corbillard des pauvres.
Alors, comment était-il, ce corbillard des pauvres?
Tout s'il y avait de simple et rien du tout, comme décoration.
Combien y avait-il de chevaux?
Ah, ça, je ne me rappelle pas.
Est-ce qu'il y avait des fleurs sur le corbillard des
pauvres? Je ne crois pas. Il y avait, ou alors, s'il y avait des fleurs, c'était très peu qui avait été donné peut-être par ses petits-enfants, par Jean et son petit-fils.
Et il y avait alors des chars de fleurs, à part ça?
Ah, à part ça, il y a eu des chars, naturellement, de assez grande quantité.
Vous ne vous rappelez pas combien? Ni comment ils étaient.
De 85.
Oui, non, c'est pas un reproche que je vous fais faire seulement, à savoir quels sont vos souvenirs.
Oui.
En somme, vos souvenirs, vous, sont essentiellement ceux de la veillée.
La veillée, oui.
Vous êtes resté là toute la nuit?
Pas toute la nuit, non, on a été remplacé par de la troupe.
Ah bon, vous êtes...
Vers 10 heures par là, c'est l'armée qui a remplacé.
Là. Alors vous étiez là de quelle heure à quelle heure?
Eh bien, nous sommes venus là vers 2 heures.
2 heures du matin?
Non, 2 heures le soir.
Ah bon.
2 heures l'après-midi.
2 heures l'après-midi, la veille.
Oui, oui.
Et vous êtes resté jusqu'à 10 heures du soir.
Nous sommes restés jusqu'à vers 10 heures du soir, en se relayant naturellement
honneur. Mais vous m'avez dit que vous étiez aux obsèques. C'était le lendemain, les obsèques.
Oui, mais le lendemain, c'est le lendemain, les obsèques ont eu lieu. Ben, nous les avons forcément vus, puisque nous nous sommes trouvés là, également à l'étoile. Mais alors, pas en fonction.
Ah, vous êtes revenu alors?
On est revenu.
Et où étiez-vous à ce moment-là?
Eh bien, à ce moment-là, nous étions à côté de l'étoile. Nous n'étions pas dans le cortège même, nous étions sur les côtés.
Sur les côtés.
Nous avons assisté à côté.
Donc, vous avez fait la veillée, la veille.
Oui, à la veillée jusqu'à à peu près 10 heures.
Est-ce que vous rappelez le temps qu'il faisait?
Ben, le temps était moyen. Il ne faisait pas très, très chaud, mais enfin, le temps était supportable.
Bon, eh bien, je vous remercie, M. Toucheboeuf. Madame, je vais vous demander, si vous voulez bien me le dire, quel est votre nom?
Madame Levaché.
Madame Levaché. Et alors, vous étiez à l'enterrement de Victor Hugo?
De Victor Hugo.
Bon, est-ce que je puis vous demander l'âge que vous aviez à ce moment-là?
J'avais 17 ans et demi.
Et vous étiez à quel endroit?
J'étais, pour voir le cortège, boulevard Saint-Germain, à la hauteur du ministère de la guerre.
Et vous êtes resté là de quelle heure à quelle heure?
Oh, nous sommes arrivés à 8 heures pour avoir une bonne place.
À 8 heures du matin ou à 8...
À 8 heures du matin.
Oui.
Et je ne crois pas me tromper en disant qu'on n'en est parti qu'à 2 heures de l'après-midi.
Et alors, le cortège a défilé à partir... Vous ne vous rappelez pas à partir de quelle heure?
À partir, peut-être... Il est peut-être passé devant mes yeux, là, vers 10 heures.
Vers 10 heures. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce cortège?
Parce qu'il revenait... Il descendait de l'Arc de Triomphe.
Oui.
Où il y avait eu la veillée mortuaire.
Oui, ça je sais, mais ce que je vous demande, c'est ce que vous avez vu, vous.
Ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est le premier ou après, j'ai vu le corbillard, puisque c'était corbillard des pauvres.
Oui. Est-ce que vous rappelez combien de chevaux il y avait?
Oh non, ça, il y en avait peut-être deux, vous savez, il n'y en avait pas beaucoup pour les pauvres,
oui,
pas beaucoup.
Et est-ce qu'il y avait des fleurs sur ce
corbillard? Oh, des fleurs à profusion.
Sur le corbillard?
Ah, sur le corbillard, non, il ne devait pas y avoir de fleurs.
Ah bon, alors elles étaient sur d'autres voitures?
Non, elles étaient portées à bras.
Portées à bras?
Oui, je me rappelle très bien. Elles étaient portées à bras. Et j'ai souvenir de celle qui a été offerte par les magasins du printemps. Probablement, le cortège a fait une pause devant l'endroit où je me trouvais.
Oui, alors vous avez pu lire ce qu'il y avait sur la
couronne. Sans ça, je ne l'aurais peut-être pas remarqué.
Ouais.
Mais elle était superbe, faite entièrement en violette de Parme, et surmontée de petits oiseaux.
Tiens.
Et la teinte des violettes de Parme s'harmonisait avec la livrée des porteurs.
Et tous les magasins avaient envoyé comme
Oh, tous les magasins, tout le monde... Vous savez, c'était une réclame de commerce, pour moi, à mon avis.
Bon, et en dehors de cela, qu'est-ce qu'il y avait dans le défilé?
Ah ben, en premier, il y avait toutes les autorités, il y avait toutes les délégations, il y avait des chamarrures, il y avait ça. Et puis, le défilé, moi, je vous dis, on attendait ce corbillard.
Et vous n'avez, il n'y a rien, il n'y a pas eu d'incident particulier?
Ah non, 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 tout était très calme, c'était imposant. Et je n'ai gardé souvenir de rien que du corbillard et de la couronne.
Merci infiniment, madame. J'ai devant moi Madame Monnet, qui a bien voulu m'écrire qu'elle avait assisté à l'enterrement de Victor Hugo.
Oui, monsieur.
Et qui a bien voulu venir pour me faire part de ses souvenirs. Alors, à quel endroit étiez-vous le jour de l'enterrement?
Oh, monsieur, le jour de l'enterrement, j'étais simplement dans la matinée.
Dans la matinée, oui?
Oui.
À quel endroit?
J'ai vu l'arc de triomphe de l'étoile.
Oui.
Et j'ai déposé simplement une couronne de perles ou de qu'on faisait dans ce temps-là.
Oui.
Ou de fleurs, je ne m'en rappelle pas.
Vous êtes allé vous-même porter cette couronne?
Oui, j'étais avec une parente.
Est-ce que je puis me permettre de vous demander l'âge que vous aviez à ce moment?
J'avais 12 ans.
12 ans.
Oui, oui, j'ai la mémoire très peu de d'autres choses. Et pourtant, j'ai conservé le souvenir qui est peut-être inexact d'avoir serré la main à la famille de Victor Hugo. Je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai gardé ça dans ma mémoire.
Qui se trouvait là au pied du cénotaphe.
C'était dans une tente. C'est très vague dans ma mémoire.
Oui. Peut-être
et ça se passait sous une tente toute noire.
Oui.
Et j'ai cette impression d'avoir salué la famille.
Oui. Peut-être étiez-vous allé avant...
Les autres, je n'ai pas d'autre chose à dire parce que c'est très...
C'est très lointain
très
et très
lointain.
Confus. Et vous ne vous rappelez pas l'Arc de Triomphe, comment il était?
Pas du tout.
Pas du tout.
Et le catafalque, pas du tout.
Et le corbillard?
Ah, ça, c'est pas le corbillard. Non, je ne l'ai pas vu non plus.
Vous ne l'avez pas vu?
J'ai dû le voir.
Oui,
j'ai
bien entendu, mais il est sorti de votre mémoire.
Oh, depuis longtemps.
Et, et le souvenir de la foule non plus ne vous est pas resté?
Non, monsieur, c'est très bizarre. Je ne vois pas la foule, je ne vois pas j'entends pas les discours, ni la musique. Ce qui m'est resté dans la mémoire,
C'est d'avoir serré la main aux enfants.
Oui, et puis je suis sûre d'y avoir été, n'est-ce pas, puisque j'étais avec d'autres.
Oui, qui vous l'ont rappelé.
Oui, avec des personnes plus âgées que moi qui...
Et pourtant, vous vous rappelez avoir été place de l'Étoile.
Ah oui, c'est absolument.
Oui.
Oui. Et cette tente était du côté droit.
Oui.
En sortant, en allant par les Champs-Élysées. Cette tente
que vous vous rappelez, c'était près de l'Arc de Triomphe, du côté droit, en venant des Champs-Élysées.
C'est ça. Est-ce qu'on vous l'a dit quelquefois?
Pas encore, mais...
Parce que c'est curieux, je n'y attache pas d'importance moi-même. Je dis, je rêve peut-être, mais ça, c'est resté dans mes mémoires. C'était la première fois, n'est-ce pas, que je voyais peut-être des deuils. Je voyais les gens pleurer. Alors, j'ai pleuré comme eux. Et puis, d'autres choses, je n'ai pas vues.
Eh bien, je vous remercie en tout cas beaucoup, madame, de la sincérité de votre souvenir, parce que ça,
oui,
c'est un témoignage absolument authentique.
Je suis désolée parce que ce n'est pas bien intéressant.
Mais si, c'est toujours très intéressant d'avoir un témoignage réel.
Oui,
vous ne me répétez pas ce que vous...
Mais on vous a dit qu'il y avait cette tante et puis toute la famille.
Non, pas encore, mais peut-être me le dira-t-on. Je vous remercie en tout cas beaucoup, madame.
C'est moi qui m'excuse d'être pas plus intéressant.
J'ai devant moi M. de Maguelen, qui a assisté également à l'enterrement de Victor Hugo et qui veut bien essayer d'évoquer ses lointains souvenirs. Qu'est-ce que vous vous en souvenez de cette
cérémonie? J'ai été convoqué, oui, comme bataillon scolaire, n'est-ce pas? J'ai assisté comme bataillon scolaire au 5e bataillon scolaire dans le 14e arrondissement. Et on nous avait désigné, convoyé, les chars de couronne, n'est-ce pas, qui étaient 14, je crois qu'il y en avait 14, il me semble bien.
14 chars de couronne.
Oui, de tous les coins du monde. Celle dont je me rappelle le mieux comme couronne, c'est une couronne immense qui était envoyée par le Brésil.
Oui.
Très grande. C'était des chars, des pyramides tronquées, n'est-ce pas,
oui.
Couvertes de chars. C'était à peu près, ça pouvait donner l'exemple, enfin, de... tous les coins du monde, vous savez, toutes ces couronnes, il y avait des monceaux.
C'est surtout le côté couronne qui vous a frappé.
Bah, écoutez, oui, puisque je n'ai, pour ainsi dire, vu que ça, n'est-ce
oui,
pas
parce...
fait tout le temps nous avons fait tout le défilé comme bataillon scolaire. Et je ne me rappelle même pas, c'est tout à fait vague dans mon esprit, où nous avons été réunis.
Oui.
Et j'ai vu, pourtant, enfin, puisque nous attendions, j'ai vu arriver tous les corps constitués, n'est-ce pas, les facultés. Les cours
en
et tout en grande tenue.
Tenue,
c'est ça qui m'a frappé beaucoup,
oui.
Parce que je ne connaissais pas les costumes, n'est-ce pas, les robes jaunes et rouges de tous ces messieurs, tout ça. Et enfin, c'est une chose tout à fait de jeune.
Et les académiciens devaient
les
être
académiciens.
Là,
alors là, n'est-ce pas, puisque nous attendions pour le défilé, il fallait que nous voir tout ce monde qui venait, oui, pour prendre place dans le cortège.
Vous aviez quel âge?
J'ai 83 ans, enfin, j'avais... 13 ans,
13
j'étais
ans.
Dans ma 13e année, bataillon scolaire.
Oui, c'est tout de même un souvenir qui frappe beaucoup à cet âge-là.
Oui. Alors, il y a bien des choses qui m'échappent tout de même. Au point de vue de ça, n'est-ce pas, nous faisions partie, nous étions figurants, alors on évite bien des choses.
C'est-à-dire que vous êtes...
Ce que je me rappelle alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand nous avons été disloqués, n'est-ce pas, quand nous avons fait tout le parcours et arrivé au Panthéon, c'est qu'alors j'ai pu aller revoir la fin du cortège, n'est-ce pas.
Ah oui.
Et c'était les troupes qui défilaient, qui arrivaient à la fin, et ils ont joué, ça m'avait beaucoup frappé, ils ont joué au chant, la troupe en montant au Panthéon,
en montant la rue Soufflot.
A joué au chant, enfin, la rue Soufflot. Ça s'est resté beaucoup dans mes mémoires, ça m'a beaucoup frappé. Et puis alors, c'était pour ainsi dire la fin, n'est-ce pas, c'était,
oui,
la fin du cortège, et alors je suis monté juste là-haut, j'ai vu les monceaux de couronnes qui étaient sur les marches, et aussi les flammes vertes qui sortaient, vous savez, des coupes de chaque côté du Panthéon. C'était assez impressionnant, enfin, pour un enfant de cet âge-là.
Et les bataillons scolaires ne sont pas entrés dans le Panthéon, vous êtes resté à l'extérieur.
Ah non, non, moi, alors, n'est-ce pas, là, j'étais tout à fait assistant, n'est-ce pas,
oui.
je n'étais plus du cortège, là, j'étais comme tout à fait comme
dans
spectateur.
Dans la foule. Merci infiniment, monsieur. J'ai maintenant devant moi Madame Castex. Madame Castex, à qui je vais avoir l'indiscrétion de demander son âge, je puis vous le demander.
Mais parfaitement, monsieur. J'ai 85 ans bientôt.
85 ans. Vous avez donc assisté à l'enterrement de Victor Hugo.
Oui, monsieur.
À quel endroit vous trouviez-vous?
Je me suis trouvé. D'abord, j'ai été voir le catafalque.
La veille, probablement. Pendant
la veille ou l'avant-veille, pendant la semaine qui a précédé, oui. N'est-ce pas? Parce que Victor Hugo n'a pas été enterré tout de suite, n'est-ce oui. pas? On l'a gardé quelques jours. Eh bien, j'ai remonté
les
Champs-Élysées en fiacre. Mon papa m'avait emmené. Et je me souviens très bien du grand voile noir qui tombait du haut
de
l'Arc de Triomphe et des lampadaires au gaz qui étaient enveloppés de crêpes.
Oui.
Oh, mais c'est très net. Et très net aussi l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Notre fiacre roulait comme s'il avait été tout seul.
Dans les jours qui précédaient l'enterrement.
Dans les jours qui précédaient l'enterrement. Du reste, de l'ensemble, j'ai gardé l'impression que Paris n'était pas très encombré. Et le service d'ordre ne devait pas être considérable, même.
Non, très difficile. C'était pas très difficile à ce moment-là.
Oui, oui.
Alors, après cette promenade en fiacre qui vous a permis de voir le catafalque, vous êtes venu le jour de l'enterrement.
De l'enterrement. Et alors, j'étais sur le boulevard Saint-Michel, grimpé sur un banc, face ou à peu près, n'est-ce pas, à la rue Stufflot. Le oui. banc qui était le plus près, à droite, qui était le plus près. Je crois que ces bancs ont maintenant disparu. J'étais là.
Et alors vous avez grimper. Pu voir le cortège monter
j'ai
la rue Stufflot.
J'ai vu tout le cortège, oui. Pam, tourner.
Tourner où
oui, je tournais. Je le voyais sur le boulevard Saint-Michel.
Et qu'est-ce que vous vous rappelez de ce cortège?
Ah, je me souviens d'une façon impressionnante du cercueil des pauvres.
Oui.
Et derrière, à une distance assez importante, Georges Hugo, qui était... ainsi que son grand-père avait cherché à le faire une idole de tous les enfants des écoles de Paris.
Ah oui.
Nous adorions Georges et Jean Hugo. Oui.
Et il était seul.
Il était seul. Il y avait encore un très grand espace derrière lui.
Oui.
Et je le vois comme je vous vois, monsieur.
Et puis...
C'était très impressionnant. Et par la suite, après, il y avait probablement tous les corps constitués, tous les gens qui défilaient, n'est-ce pas,
oui.
je me souviens. Et ensuite... pendant un temps qu'il me semble avoir duré peut-être une heure, un défilé inimaginable de couronnes, de fleurs, de chars portant des couronnes.
De chars portant des couronnes.
Une quantité, je ne sais pas, invraisemblable. Et puis, comme je n'avais pas vu aucun enterrement par la suite, j'en ai vu pourtant des enterrements. Et... des fleurs portées aussi.
Des fleurs portées aussi.
Il faut dire qu'on avait fait une quête dans toutes les écoles de la ville...
Oui.
J'avais congé ce jour-là, et il y a probablement tous les enfants étaient venus voir, n'est-ce pas, puisqu'on avait fait des quêtes et toutes les écoles avaient donné des fleurs. Vous imaginez
oui,
ce que ça pouvait être.
Pouvait...
C'était formidable.
Bon, vous ne vous rappelez pas combien de chars de fleurs il y avait, ça, vous ne les avez pas comptés, évidemment.
Je ne les ai pas comptés, non, mais le défilé a été de longueur.
Et parmi les délégations, il n'y en a pas qui vous ait frappé par
non,
leur pittoresque ?
Non, les délégations, non, 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 vraiment.
Bon, votre souvenir, donc, le plus frappant, c'est le Corbillard,
le
et
Corbillard
puis la présence de Georges Hugo tout seul.
Mais seul, alors on avait fait un vide énorme avant et après.
Et
j'étais seul, c'était impressionnant.
Et à cet endroit-là, la foule était silencieuse ou...
Oh, silencieuse, très, la foule était très silencieuse. Oh, oui.
Bon, c'était dans l'ensemble très impressionnant. Et ensuite, vous ne vous rappelez pas comment la foule s'est disloquée ou ce qui s'est passé?
Non.
Ça, le souvenir s'en est allé.
Non. Bon, je ne me souviens pas.
En somme, vous rapprochez surtout votre montée en fiacre le long de l'avenue des Champs-Élysées quand vous êtes allé voir.
Oui.
Et le catafalque, comment était-il? Vous
Oh, il était très grand. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous donner les détails du catafalque. Il y avait le rideau, un grand voile noir qui tombait face
à
l'avenue des Champs-Élysées.
Oui.
Un grand voile noir.
Bon. Merci beaucoup, madame. Monsieur Noël Fredet, qui est devant moi maintenant, a assisté à l'enterrement de Victor Hugo et veut bien nous rappeler les souvenirs qu'il en a conservés. Où étiez-vous ce jour-là, monsieur Fredet?
J'étais à Paris.
Oui, j'imagine, mais à quel endroit du cortège?
À l'hôtel du Louvre.
À l'hôtel du Louvre.
Qui se trouve actuellement être les grands magasins du Louvre, au deuxième étage. J'avais un oncle qui était venu à Paris de la province, précisément pour cette cérémonie, et qui nous avait invités. Et je me souviens que mon père et ma mère m'ont emmené. Je vois encore l'entrée de l'hôtel sur la place du Palais Royal, les tapis rouges. Je ne me rappelle pas avoir vu l'ascenseur à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y en avait. Mais il y avait des escaliers, des couloirs à n'en plus finir. Et nous sommes entrés dans une petite chambre qui donnait sur la rue de Rivoli, devant un bâtiment assez noir, assez sombre, qui se trouve être actuellement le ministère des Finances.
Oui.
Je me suis installé là. Naturellement, comme j'étais jeune, j'avais 7 ans, je n'ai pas perdu un iota de...
Du cortège. Alors le cortège est donc passé rue de Rivoli.
Le cortège est passé rue de Rivoli. J'étais allé la veille, ou l'avant-veille, je ne me rappelle plus au juste, à l'Arc de Triomphe. Mon père m'avait montré le catafalque en me disant « C'est un grand homme qui vient de mourir, c'est Victor Hugo, tu verras plus tard, tu apprendras ses vers, sa poésie qui est très jolie, c'est un grand homme. » Il en avait fait tout un éloge.
Et ça vous a beaucoup frappé?
Ça m'avait un petit peu frappé parce que on m'avait promis, si j'étais sage, le lendemain de voir son enterrement. Et alors on m'a mis au premier rang du balcon, c'était un balcon je crois, ou une espèce de fenêtre grillée là. Et je me rappelle avoir vu des quantités de personnes, de gens, de monde qui allaient, qui venaient, des voitures chargées de fleurs, et une voiture toute seule avec des chevaux en noir, tout noir, tout sombre.
Sans fleurs sur le corps.
Sans fleurs sur la voiture. Et puis derrière, alors comme je suivais la voiture de loin, que je me penchais pour regarder, je n'ai pas bien fait attention, je n'ai pas bien remarqué ce qui se passait après. J'ai vu les choses, nous sommes redescendus de l'hôtel, et une fois dans la rue, la cérémonie était finie.
Vous étiez perdu dans la foule.
J'étais perdu dans la foule, enfin, avec mes parents. Nous sommes rentrés, nous habitions à ce moment-là au quai de Béthune, et nous sommes rentrés, je me rappelle, à pied, mon père a parlé avec ma mère, avec son frère, avec mon oncle, de Victor Hugo, de tout ce qu'il avait fait, que c'était un homme politique, littéraire, enfin...
Et alors vous êtes rentré chez vous au milieu d'une foule qui devait être considérable.
Et nous sommes rentrés, oui, il y avait assez de monde, et nous sommes rentrés à pied, parce que je ne crois pas qu'à ce moment-là, il y avait de voitures à nous prendre, puis mon père n'avait pas les moyens de se payer des voitures comme ça. Nous sommes rentrés au quai de Béthune à pied. Je me vois encore, en partant, quittant, et me retournant pour regarder encore l'hôtel si joli dans lequel j'étais, parce que notre appartement ne ressemblait pas à l'hôtel du Louvre.
En somme, ce qui vous a frappé le plus dans l'enterrement, c'est l'hôtel du Louvre.
C'est l'hôtel du Louvre, je crois qu'il m'a frappé le plus. Bon. Ce sont ces grands couloirs, ces tapis rouges et tout ce qu'il y avait de lumière.
Bon, merci beaucoup, monsieur. Mademoiselle Louise Fischer est devant moi maintenant et va nous dire ce qu'elle se rappelle de l'enterrement de Victor Hugo. Vous aviez quel âge à ce moment-là, madame? Ou mademoiselle, pardon.
Il n'y a pas de mal, monsieur. J'ai eu mes 8 ans à la fin de l'année, le 14 octobre 1885.
Bon, vous n'aviez donc pas tout à fait 8 ans au moment de l'enterrement.
Non.
À quel endroit vous trouviez-vous sur le parcours du cortège?
Je ne me suis pas trouvée sur le... Alors, je l'ai écrit dans ma lettre. Je n'ai pas assisté au défilé du cortège. Parce que ma mère n'a pas voulu que papa m'emmène. Elle avait peur que ça me fatigue de trop.
Alors qu'est-ce que vous avez vu?
Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai été à l'hôtel Victor Hugo, à la chambre mortuaire.
Ah, vous êtes allée dans la chambre mortuaire?
J'ai été dans la chambre mortuaire avec mon père, qui m'a pris dans ses bras pour que je voie le poète reposant sur son lit. Ensuite, le lendemain, c'était la veillée funèbre à l'Arc de Triomphe.
Oui.
Mon père m'y emmenait. Et alors là, j'ai dépeint, dans ma lettre du reste, j'ai dépeint la...
Ce que vous aviez vu.
Ce que j'avais vu.
Est-ce que je peux vous demander, vous avez le souvenir très précis de Victor Hugo lui-même sur son lit de mort?
Oh oui.
Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce...
Non, qu'il était très... qu'il avait une très belle barbe blanche.
Oui.
Et vous savez, c'est la mémoire d'un enfant de 8 ans.
Oui, bien entendu, mais quelque chose aurait pu vous frapper dans cette chambre. Comment
ah non, pas, parce qu'il fallait défiler assez vite.
Oui, naturellement.
N'est-ce pas? Et alors, à l'Arc de Triomphe, ce qui m'avait beaucoup frappé, je n'avais jamais vu un spectacle pareil, et que je n'ai pas oublié, c'était les torchères, des grosses torchères à flammes vertes, qui étaient aux quatre coins de l'Arc de Triomphe, et qui brûlaient jour et nuit.
Oui. Et puis, je m'excuse.
Non, c'est tout.
Non, vous avez été frappé, en somme, par le visage même de
Victor
Hugo.
Et puis alors, la foule, une foule extraordinaire, une foule silencieuse, très émue, très recueillie. Et quand j'étais dans la chambre de mortuaire, j'étais très impressionnée et émue. J'avais envie de pleurer, j'avais... Vous savez, je...
Oui, naturellement, c'est très impressionnant.
J'étais très impressionnée. Mon père était grand admirateur de Victor Hugo. Il avait tenu J'avais 4 frères, mais j'étais seule de fille. Il avait tenu à ce que je voie ce spectacle.
Et il vous a emmené dans la chambre du poète?
Dans la chambre de Victor Hugo. Il m'a emmené aussi à l'Arc de Triomphe, comme je vous l'ai dit.
Mais la veille, alors?
Le lendemain.
Le jour même de l'enterrement?
Alors ça, je ne me rappelle pas.
Vous ne me rappelez pas.
Mais alors, le défilé mortuaire dans les rues de Paris, ça, je ne l'ai pas vu.
Vous n'avez pas vu?
Je ne l'ai vu qu'en image, sur le journal illustré, qui, à l'époque, coûtait 15 centimes, et qui donnait toute la... le cortège funèbre. Et alors, j'étais impressionnée aussi, parce que un homme illustre comme ça, qui était dans le char des pauvres...
Oui, ça a frappé les imaginations de tout le monde, évidemment.
Pas. Et alors, c'était ces chars de couronne innombrables. Il y en avait. Et alors, le lendemain, nous avons été au Panthéon.
Ah bon, alors tout de même, vous êtes allé au Panthéon le jour
des
obsèques.
Le lendemain. Parce que le public a été admis à défiler pour voir toutes les couronnes qui étaient étagées sur les marches du Panthéon.
Ah oui.
Et alors, les personnes qu'ils désiraient pouvaient emporter quelques fleurs. Il y avait des couronnes en perles, des couronnes en fleurs, des couronnes beaucoup d'immortelles.
Et alors, vous avez pris quelques fleurs?
Alors, on m'a donné, un employé des pompes funèbres certainement, m'a donné un petit bouquet d'immortelles violettes et jaunes que je serrais très fort dans ma main. Papa était très ému aussi. Et rentré à la maison, mon père prit un petit vase, y mit le bouquet et il plaça le tout dans sa bibliothèque où il est resté des années. C'était un souvenir des obsèques de notre poète national.
Merci beaucoup, madame. Madame Vilquin, qui se trouve en ce moment devant moi, a assisté également à l'enterrement de Victor Hugo. Puis-je vous demander, madame, l'âge que vous aviez à ce moment-là?
J'avais 13 ans.
13 ans. Eh bien, qu'est-ce que vous vous rappelez? Où étiez-vous?
Alors, j'étais entre l'Étoile et le Rond-Point des Champs-Élysées.
Entre l'Étoile et le Rond-Point.
J'avais 13 ans et je me trouvais chez des amis qui me disent, viens voir l'enterrement. Il y avait des voitures à bras. On a mis une échelle, pas une échelle double, une échelle à bâton.
Oui, une échelle simple. Oui.
On m'a grimpé là-dessus depuis 9 heures du matin jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Le cortège commence à passer, je vois des foules dans mon imagination de 13 ans.
Oui.
Actuellement, je verrais autre chose. Je vois une foule énorme, des gens tout en noir. Parce qu'à ce moment-là, sans doute, on n'allait pas l'enterrement avec des habits n'importe comment. Ça m'a frappé mon imagination. Puis je dis, mais ils sont tous en deuil, ces gens-là. Et puis après, je vois le corbillard arriver. Alors ce corbillard, c'était quelque chose d'inénarrable. Habituellement, à ce moment-là, il y avait 7 classes d'enterrement. Ça faisait la 8e, celle-là. Je verrais toujours ce chose rectangulaire. Et puis ce dôme ovale, et puis l'arche comme ça. Et je disais, mais comment on peut faire pour rentrer un corps là-dedans?
Ça vous a semblé tout petit?
J'avais 13 ans. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comment tu fais pour le mettre là-dedans? Et puis je vois ce drap avec des petites franges comme ça.
Toutes petites franges?
Oui. Par contre, après, à 10 mètres, Georges Hugo, qui était le petit-fils, tête nue, derrière le corbillard, mais au moins 10 mètres, vous savez, et derrière lui autant. Et savez-vous ce qui m'a frappé? Parce que, d'abord, il y avait une foule énorme, de temps en temps, le cortège s'arrêtait. Il s'est arrêté près de moi.
Oui.
Et je vois toujours Georges Hugo relevant son chapeau. Je dis, c'est égal, il pourrait être digne au lieu de saluer la foule. Je me suis figuré qu'il saluait la foule. Et après, les personnes qui étaient là m'ont dit, mais non, tu n'as pas vu que c'était le soleil qui mettait son chapeau pour se garer
protéger
du soleil.
Le soleil.
Et dans mon imagination, je me disais, mais c'est égal, mais pourquoi salue-t-il ces gens-là? C'est pas le président de la République qui pourrait être digne à l'enterrement de son grand-père.
C'est ça voilà, ce qui vous a frappé le
ça,
plus.
Ça m'a frappé. Et puis après, ce qui m'a frappé encore, parce que j'ai compté 32 chars de fleurs.
32 chars de fleurs.
32 ou 34, ça c'est vague. Mais alors, 32 à peu près. Mais alors, ces chars, c'est presque des catafalques. Et puis alors, draperies argentées, les flammes d'argent, tout ça. Et alors, surmontées de beaucoup de fleurs. Je me dis, on aurait bien pu lui mettre une couverture comme ça, au lieu de lui mettre ce drap-là noir, qui signifie rien du tout. Je me disais, et voilà.
Et le cortège, ensuite, ça ne vous a pas...
Oh, le cortège, alors. Le cortège, ça, c'était quelque chose de fabuleux. Ah, le silence.
Le silence.
Est-ce que c'était près de l'Arc de Triomphe? Est-ce que c'était à la débandade après? Je n'en sais rien. Mais vous savez, ça m'avait frappé. Alors, je suis allée déjeuner, on m'a descendu de cette échelle, je regardais toujours si quelqu'un ne montait pas. Ah ben, autre chose qu'il faut que je vous dise à propos de cette échelle. À ce moment-là, derrière cette échelle, c'était les personnes qui étaient avec moi qui l'avaient portée, là, à côté, contre la voiture à bras. Alors, les gens de la voiture à bras, voyant que, parce qu'il y avait au moins une dizaine de personnes devant, avant d'arriver à la chaussée.
Oui, bien sûr, alors, il y avait des rangs.
Alors, contre cette échelle, je me disais, mais tout à l'heure, on va me renverser par terre. Et puis, je regardais l'enterrement, puis je regardais si je n'allais pas tomber. Tout d'un coup, un monsieur, dans ce silence, m'a dit, allez, qui veut monter là-dessus? 300 francs la place.
300 francs à l'époque, dites-moi, c'était une somme. Oui.
Voyez-vous, 300 francs la place.
Je comprends que ça vous ait frappé.
Mais oui, alors ça m'avait frappé, ça. Puis c'est tout. Alors, on me redescend de cette échelle où une grappe humaine était montée derrière les barreaux, que j'avais toujours peur. Je disais, si je tombe, je vais tomber là-dessus. Et je suis allée déjeuner, je suis revenue après. Ça a passé jusqu'à 4 heures.
De 9 heures
le matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Autant que je puisse me rappeler. Voilà.
Merci infiniment, madame.
Alors maintenant, vous savez, j'avais assisté aussi, lorsqu'il avait 80 ans, qu'il était à sa fenêtre, en place Victor Hugo.
Ah oui, vous êtes allé le voir à sa fenêtre.
À ce moment-là, j'avais 10 ans avec mon père, alors là. Oui.
Donc vous avez vu Victor Hugo?
Ah, oh oui, j'ai vu Victor Hugo. Et puis vous dire, mon père, c'est le sosie de Victor Hugo. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est pour ça que je suis venue, que je vous ai écrit.
Merci beaucoup, madame.
Voilà.
J'ai devant moi M. Gainsburger, qui lui aussi a assisté à l'enterrement de Victor Hugo. Quels en sont vos souvenirs, monsieur?
Je faisais partie d'une société de tir et de préparation militaire. Et nous étions convoqués pour assister aux obsèques, en groupe, n'est-ce pas?
Oui.
Ils ont parti de la Ligue des Patriotes à ce moment-là.
Vous et aviez quel âge?
J'avais 20 ans.
20 ans.
Oui, j'en vais en avoir 91.
Ben, en effet, mais vous avez une voix d'une solidité.
Ah oui.
Et tout le reste à l'avenant. Voulez-vous continuer? Je m'excuse.
Alors, on nous a groupés à un endroit déterminé, n'est-ce pas?
Oui.
Et au moment où nous devions entrer dans le cortège, ils ont suivi. Sommes arrivés. Le cortège était arrivé au Panthéon alors que nous étions encore à l'étoile.
Ah bon?
Oui. Sommes arrivés. Ben, nous avons vu un morceau de couronne. Pas.
Ce qui fait qu'en vérité, vous n'avez pas vu le cortège.
Si, nous l'avons vu partir, n'est-ce pas?
Bon, où étiez-vous au moment du départ?
Je ne me souviens plus. J'étais du côté de l'étoile.
De l'étoile, oui.
Oui.
Alors, vous avez vu tout de même le corbillard?
J'ai vu le corbillard. C'est l'ancien corbillard des pauvres, n'est-ce pas? Et un cheval.
Il y avait un cheval. Est-ce qu'il y avait des fleurs sur le corbillard?
Je ne me rappelle pas.
Je ne me rappelle pas. Et il y avait, part ça, des chars de fleurs.
Il y avait des chars de fleurs.
Oui. Vous n'avez pas entendu les discours?
Nous n'avons rien entendu. Nous sommes arrivés peut-être 3 heures après.
Et vous avez tout de même été jusqu'au Panthéon?
Jusqu'au Panthéon, oui. Bon. Nous avions une couronne, nous avons été la porter jusqu'au Panthéon.
Mais vous deviez être très fatigué à l'arrivée, dites-moi.
Nous étions jeunes à ce moment-là.
Vous aviez 20 ans, oui. Merci infiniment, monsieur.
Oui, je suis ancien contrôleur en chef du Théâtre Saint-Bernard.
Oui?
Oui, et j'y suis resté 27 ans.
Et bien en effet. Mais dites-moi... Non, le cortège n'est pas passé, évidemment. Le cortège passait par le boulevard Saint-Germain.
Oui, je
me
rappelle.
Saint-Michel, vous ne me rappelez pas.
J'ai vu autre chose de Victor Hugo. J'ai défilé dans un groupe qui fêtait les 80 ans de Victor Hugo. Oui. On défilait devant sa maison, il était à la fenêtre avec sa petite fille, en Hugo. Ou Jean Hugo.
Et alors lui, vous l'avez vu à ce jour-là?
Ah oui, très bien, très bien. C'est bien tel qu'on le représente sur ses portraits avec ses barbes, n'est-ce pas?
Mais il était peut-être venu au théâtre, non? Vous ne l'avez pas vu au théâtre?
Non, parce que c'est beaucoup plus tard que j'étais au théâtre.
Ah oui, c'est juste.
Il était déjà mort et enterré, et au Panthéon.
Bon, merci beaucoup, monsieur.
De rien, monsieur. Je regrette de ne pas pouvoir en dire davantage.
J'ai devant moi M. Chapelle, qui a lui aussi assisté à l'enterrement de Victor Hugo et qui veut bien évoquer ses souvenirs pendant quelques instants. Monsieur Chapelle, vous vous trouviez où le jour des obsèques?
Je me trouvais à l'avenue des Champs-Élysées, en face de la rue Washington.
En face de la rue Washington.
Oui.
Et vous étiez là depuis quelle heure?
Moi, j'étais là depuis 8 heures du matin.
8 heures du matin.
Et je pense me rappeler que la cérémonie a commencé vers 10 heures, je crois.
Puis-je vous demander l'âge que vous aviez?
J'avais 10 ans.
10 ans. Et vous avez des souvenirs assez précis?
J'ai des souvenirs assez précis de l'ensemble, n'est-ce pas? Je sais qu'il y avait énormément de fleurs au début, que sa corbillard qu'il devait avoir était aussi garni de fleurs, et que derrière, il y avait un corbillard. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il me semble me rappeler que le corbillard n'était pas le corbillard de dernière classe. Il y avait des draperies, une petite guirlande blanche en haut du corbillard, et la dernière classe avec des franges noires.
N'en comporte pas. C'était donc pas tout à fait, d'après vous, le corbillard des pauvres.
Je me rappelle, c'était que ça m'a même frappé que c'était pas le corbillard des pauvres. Si on avait voulu suivre son idée, c'était même de pas lui faire des honneurs pareils le jour de son enterrement. On pouvait l'honorer après. Mais l'idée de cette époque-là, c'était qu'il avait demandé un enterrement tout à fait simple et tout à fait ordinaire.
Et alors, en dehors de ce corbillard, il y avait des chars de fleurs.
Il y avait des chars de fleurs énormément.
Vous ne rappelez pas combien de
chars? Non, vous savez, 4 ou 5.
4 ou 5 chars
énorme,
de fleurs.
Énorme, mais oui. On n'avait jamais vu du reste une cérémonie pareille et des fleurs pareilles.
Et sur le cortège lui-même, vous avez des souvenirs?
Le cortège, qu'est-ce que vous appelez?
C'est-à-dire les gens qui accompagnaient le cercueil?
Derrière le corbillard, suivait la famille à pied.
Oui.
C'était très imposant. D'autant plus que l'avenue des Champs-Élysées n'était pas comme elle est aujourd'hui, puisqu'elle avait cette rangée de réverbères, n'est-ce pas, qui, le convoi est passé au milieu, il y avait une grande place libre, et alors, quand le corbillard est passé au milieu, c'était très imposant, très imposant. Et alors ensuite, il y avait tous les défilés, alors ça devenait plutôt un peu folklorique, parce qu'il y avait de tout, n'est-ce pas.
Il
y avait des délégations de mineurs, il y avait même une délégation chinoise. Il y avait
une délégation chinoise.
Oui, chinoise ou japonaise,
extrême orientale.
Oui, ça devait être probablement l'ambassade, mais enfin, oui. C'était une délégation, pareil, de savants.
Et les mineurs, vous vous rappelez?
Il y avait les mineurs.
Oui.
Les mineurs avec l'arme. Tout le restant, même, c'était des défilés. Je ne me rappelle pas, et puis c'était fatigant. Ça a duré 3 heures, autant que je peux me rappeler.
Oui. Bon, et bien, je vous remercie infiniment, monsieur.
Voilà.
Vous avez entendu tous ces témoignages. Je vais demander d'abord à Jean Berlé et à Jean-Pierre Morphée, qui évidemment n'ont pas assisté à l'enterrement de Victor Hugo, mais qui ont entendu tous ces témoins, de nous dire s'ils ont relevé des contradictions d'abord. Jean Berlé.
Ce n'est pas des contradictions que j'ai relevées. Ce qui m'a frappé dans ce prodigieux témoignage, qui est quelque chose de fabuleux à mon avis, qui est une des choses les plus émouvantes que j'ai entendues à la radio, eh bien, c'est tout de même, non pas les contradictions, mais l'unanimité sur un ou deux points, c'est-à-dire que Victor Hugo, qui était extrêmement riche, avait choisi fort intelligemment le corbillard des pauvres, sachant que ça frapperait les gens, et vous voyez bien que ça les frappe encore.
Ça revient dans tous les témoignages.
Dans tous les témoignages. Et deuxièmement, c'est cette chose, cet isolement du petit Georges qui marche assez loin du corbillard de son grand-père.
Oui, la mise en scène avait été frappante.
Ah, ça oui. C'est ça qui a frappé, à mon
ça
avis,
devait être
qui,
très réussi.
Qui a le plus frappé dans les témoignages. On voit bien, c'est ça qui a le plus frappé les gens.
Et vous, Jean-Pierre Morphée, vous
moi,
avez
quelques
relevé...
Quelques contradictions m'ont frappé, en effet. Le nombre de chars portant des couronnes, qui varie de certains témoignages de 4 à 5 à 32 ou 34.
Alors, je dis à ce moment-là que d'après les historiens, il y en avait 11.
Ah, c'est très intéressant.
Oui, mais pour des enfants.
Bien entendu.
Oui, évidemment.
Ils
évidemment.
Ont dit, il y a beaucoup de voitures.
Oui.
Et puis
le nombre de chevaux traînant le corbillard des pauvres.
Oui, certains ont dit 2, certains ont dit 1.
Il y en avait 2.
Il y a les petites franges. Vous avez vu les petites franges?
Oh,
on a parlé des petites franges.
À ce propos, je vais vous faire remarquer aussi que certains disent qu'il y avait des fleurs, d'autres qu'il n'y en avait pas. Et la vérité historique...
Il y avait un petit bouquet, probablement.
Non, il y avait 2 couronnes de roses blanches données par Georges et par Jeanne.
Ah oui. Alors qu'en général, on disait qu'il n'y avait rien.
En général,
l'impression, c'était la nudité.
La nudité,
en
oui.
Somme.
Je me suis demandé aussi, en écoutant un seul témoin d'ailleurs qui y a fait allusion, si vraiment les réverbères étaient voilés de crêpes sur tout le parcours.
Il y avait en réalité des oriflammes portant les noms des œuvres de Victor Hugo.
Ah
oui. Mais pas sur les réverbères.
Sur tous les réverbères, sur tout le parcours du cortège.
Ah, c'était vraiment bien arrangé.
Soulignons à ce propos que l'un des témoins nous a dit avoir vu passer le cortège rue de Rivoli, alors qu'il n'y est pas passé, puisqu'il a passé le pont de la Concorde, en venant des Champs-Élysées, il prit le boulevard Saint-Germain, et au moment où il passait le pont de la Concorde, on a lâché 150 pigeons.
Donc il n'a pas pu passer. Il n'a pas pu passer.
Peut-être d'autres voitures de deuil qu'il a dû prendre.
Bien sûr, mais
ça étant oui, petit.
C'est,
ça. Hein. Oui,
c'est là que nous voyons la fragilité du témoignage.
Et non seulement ça, mais très impressionné par autre chose, qui était le luxe de l'hôtel dans lequel il était invité.
Comparé à son propre appartement.
C'est vrai. Et d'ailleurs, il l'a dit avec une franchise ravissante.
Oui, charmant.
Il a dit ce qui a compté pour moi, c'était les lumières, c'était les tapis, et on sentait qu'il se fichait pas mal de Victor Hugo et de son enterrement. C'était autre bien son droit.
Ah, écoutez, tout de même, vous avez remarqué que tous ces témoignages de personnes âgées, il revient tout le temps le mot de poète national.
Poète national.
C'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais dire que non seulement peut-être les défaillances de la mémoire pouvaient être dues d'abord à l'âge très jeune auquel les images ont été enregistrées, à l'âge assez avancé auquel elles nous sont restituées, mais aussi au fait que l'on n'a pas considéré l'événement avec sang-froid, que l'on a été pris dans un grand moment d'émotion nationale, qui subsiste encore lorsque maintenant, à 80 ans passés, les témoins viennent nous
vous
en parler.
Vous savez, moi, ce qui me frappe énormément, je ne sais pas si vous avez vu l'enterrement de Valérie.
Oui, à Saint-Honoré-des-Eaux.
Et non seulement ça, mais enfin, ce qui avait été admirablement arrangé, d'ailleurs, il y avait une superbe mise en scène, vous vous rappelez ces draperies devant le palais de Chaillot.
Je me rappelle, et j'ai eu mon entièrement, mais
moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu les photographies. Eh bien, malgré la très grande, l'immense talent de Valérie, il est tout de même curieux de voir la différence qu'il y a eu entre ses obsèques et celles de Victor Hugo. À quel point, du côté de Valérie, il y a eu l'intelligentsia qui a été frappée, alors que là, le peuple entier a collaboré, est venu en foule. Enfin, vous voyez, ces bataillons scolaires, tout ce que nous avons raconté.
C'est l'auteur des Misérables.
C'est l'auteur des Misérables.
Et nous étions après 70.
Très intéressant. Oui, nous étions après 70.
Même la République. Oui, oui.
Eh bien,
ça.
Je ne sais pas si
la
jamais.
La grande manifestation nationale.
Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, je trouve que et l'émotion encore avec tous ces témoins, avec laquelle tous ces témoins en sont venus témoigner, c'est vraiment quelque chose de tout à fait singulier, ça.
N'est-ce pas? On pourrait parler très longtemps de l'enterrement de Victor Hugo et rappeler qu'aussi ça a été une manifestation politique, puisque c'est
vrai,
à l'occasion de cet enterrement qu'on a rendu le Panthéon à la vie civile.
Ah, c'est vrai, je ne savais pas. Mais enfin, en tout cas, le char des pauvres était une manifestation politique.
Et c'était en plus une manifestation. Ce qui m'a frappé, pour revenir au témoignage, c'est qu'il y a un fait matériel qui n'a été cité par aucun et qui aurait dû retentir dans l'esprit des enfants, ce sont les 21 coups de canon. Personne n'a parlé des coups de canon. Simone, vous ne vous les rappelez pas?
Absolument pas.
Voilà. Eh bien, il y a eu 21 coups de canon à 11h du matin, au moment où commençait...
Absolument pas. Mais je vous dis, j'étais très occupée par le fait qu'il y avait des invités à la maison et que j'étais là frétillante, m'occupant beaucoup.
Vous vous occupiez de vos petits gâteaux.
Et voilà, beaucoup plus.
Comme le monsieur s'occupait, comme le monsieur s'occupait des tapis rouges de son
exactement,
hôtel.
J'ai honte de le dire, mais enfin, c'est un con, on a des excuses.
C'était Soyez témoin, une production d'André Gillois, avec Jean-Pierre Morfait et Jean Oberlé. Montage radiophonique, Jacques Guinchard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 1er décembre 1955.